Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Top actuel micro-entrepreneur 2025-2026 » est un guide de référence synthétique consacré au régime français de la micro-entreprise, publié par Hachette Éducation et rédigé par Bénédicte Delporte, avocate au barreau de Paris. Il appartient à une collection régulièrement actualisée sur les matières pratiques de gestion, droit, fiscalité et commerce. Son format est volontairement bref, avec 64 pages organisées en 30 fiches. Afin de rendre accessibles les règles centrales sans reproduire un traité exhaustif, l'ouvrage s'adresse autant aux étudiants en gestion ou en droit appliqué qu'aux personnes en formation et aux professionnels qui envisagent une activité indépendante ou veulent vérifier leurs obligations. Il aborde le cadre juridique du statut, les bénéficiaires, le cumul avec certaines autres activités, les seuils de chiffre d'affaires, les relations commerciales et la cessation de la micro-entreprise. Sa finalité est donc opérationnelle, aider le lecteur à identifier les règles structurantes, à comprendre leur articulation et à repérer les sujets qui exigent une vérification actualisée ou un conseil spécialisé. Je vais vous présenter les points clés de ces livres. Premièrement, le cadre juridique du statut de micro-entrepreneur. Le livre place le statut de micro-entrepreneur dans son cadre juridique, point de départ indispensable pour ne pas confondre une forme simplifiée de gestion avec une entreprise dépourvue de règles. La micro-entreprise correspond à un régime applicable à certaines activités exercées en nom propre, sous condition. Comprendre cette architecture permet de distinguer le statut de la personne qui exerce, les activités concernées et les régimes administratifs, sociaux et fiscaux qui peuvent s'y rattacher. Cette clarification est particulièrement utile aux débutants, pour lesquels le terme « ancien auto-entrepreneur » demeure fréquent dans l'usage, alors que le cadre légal relève de la micro-entreprise. Le format en fiche semble privilégier les repères qui peuvent bénéficier du régime, quelles situations doivent être examinées avant le lancement et quelles conséquences découlent du choix d'exercer seul. Cet angle évite une erreur courante qui consiste à réduire la création à une formalité d'inscription. Le choix du régime influe aussi sur la manière de facturer, de déclarer le chiffre d'affaires, de suivre son activité et d'anticiper un éventuel changement de situation. Le guide ne remplace pas une analyse personnalisée des professions réglementées ou des structures sociétaires, mais il fournit une base ordonnée pour évaluer si le dispositif est adapté à un projet donné. Il traite ainsi le statut comme un ensemble cohérent de droits, de conditions et de responsabilités pratiques. Deuxièmement, les seuils de chiffre d'affaires comme outil de pilotage. Les seuils de chiffre d'affaires constituent un thème central car ils conditionnent le maintien et le fonctionnement du régime. Le livre les aborde sous les angles de la gestion, des calendriers et des calculs. Cette approche rappelle que le chiffre d'affaires n'est pas seulement un indicateur commercial dans une micro-entreprise. Son niveau doit être suivi avec précision afin de situer l'activité par rapport aux limites applicables et aux obligations qui peuvent évoluer. Le lecteur est ainsi invité à raisonner sur les encaissements ou recettes selon la nature de son activité, sur la période de référence et sur les conséquences d'un franchissement éventuel. La valeur pédagogique de ce traitement tient à son caractère concret. Un entrepreneur peut réaliser de bonnes ventes tout en rencontrant une difficulté administrative si sa croissance n'a pas été anticipée. À l'inverse, une activité irrégulière exige de comprendre les échéances déclaratives et de distinguer une prévision prudente d'un résultat définitivement acquis. En associant seuil, calcul et calendrier, l'ouvrage présente le suivi du chiffre d'affaires comme une routine de contrôle plutôt que comme une donnée à constater en fin d'année. Les montants et règles pouvant être modifiés par la législation, le guide annuel doit être lu comme un support actualisé pour sa période d'édition. Il aide surtout à repérer les variables à vérifier et à organiser une veille minimale sur le régime. Troisièmement, exercer et vendre en sécurisant les relations commerciales. Une partie importante du guide est consacrée à l'exercice quotidien de l'activité, notamment aux ventes, aux clients, aux prospects et à la propriété intellectuelle. Ce choix élargit utilement la perspective au-delà de la création administrative. Une micro-entreprise existe par ses prestations ou ses ventes, mais la simplicité du régime ne dispense pas de définir clairement ce qui est proposé. À quel prix, dans quelles conditions et avec quelles preuves des échanges? La relation avec le prospect relève d'une phase de présentation et de négociation, tandis que la relation avec le client implique l'exécution de l'engagement et le suivi de la vente. Distinguer ces moments aide à comprendre pourquoi les documents, les informations fournies et les modalités commerciales ont une fonction de sécurisation. La mention de la propriété intellectuelle est également significative pour les activités de création, de conseil, de contenu ou de vente de produits distinctifs. Le nom, les créations et les contenus peuvent avoir une valeur économique, mais leur protection et leur utilisation demandent une vigilance propre. Le livre semble présenter ces questions sous une forme synthétique, adapté à un premier repérage plutôt qu'à une analyse complète du droit des contrats ou des marques. Son intérêt est de rappeler qu'une activité indépendante se pilote aussi par la qualité des échanges commerciaux et la protection des actifs immatériels. Les fiches donnent ainsi une vision plus réaliste de l'exercice professionnel, vendre, délivrer, informer et préserver ce qui fait la valeur de son offre. Quatrièmement, le cumul avec un emploi salarié ou la fonction publique, le cumul d'activités, notamment avec une activité salariée ou la fonction publique, figure parmi les sujets associés à cette édition et répond à une situation très fréquente. Beaucoup de projets commencent comme activités complémentaires avant de devenir, ou non, une source de revenus principale. Le guide permet de poser les bonnes distinctions. La possibilité générale de créer une micro-entreprise ne signifie pas que toute activité annexe peut être menée sans condition. Pour un salarié, le contrat de travail, les obligations de loyauté, les clauses applicables et le risque de concurrence avec l'employeur doivent être examinés. Pour un agent public, les règles de cumul et les autorisations éventuelles relèvent d'un encadrement spécifique. L'apport du livre réside dans la mise en ordre de ces questions avant que le lecteur ne se concentre sur la seule démarche de création. Cette méthode est rationnelle, un projet viable sur le plan commercial peut devenir problématique s'il entre en conflit avec une obligation professionnelle préexistante. Le cumul exige également une organisation concrète du temps, des déclarations et des revenus, même si le guide ne peut déterminer à la place du lecteur les arbitrages personnels. En présentant le sujet dans un manuel généraliste, Bénédicte Delporte traite la micro-entreprise comme une activité qui s'insère dans une situation juridique globale. Le lecteur gagne donc un cadre de vigilance pour identifier rapidement les restrictions possibles et rechercher, lorsque nécessaire, une information officielle ou un avis adapté à son cas. En dernier lieu, anticiper la fin de la micro-entreprise plutôt que la subir. La gestion de la fin de la micro-entreprise complète logiquement le parcours couvert par le guide. Un manuel consacré à la création serait incomplet s'il ne signalait pas que le régime peut cesser pour des raisons diverses arrêts volontaires de l'activité. Évolution du projet, changement de situation ou sortie du cadre applicable. Traiter cette étape permet de corriger une vision trop linéaire de l'entrepreneuriat, selon laquelle il suffirait de démarrer puis de poursuivre indéfiniment les mêmes formalités. La cessation implique au contraire de vérifier les démarches déclaratives, les dernières obligations liées à l'activité et la bonne clôture des relations économiques en cours. Il faut notamment penser aux clients, aux prestations encore à réaliser, aux créances, aux documents à conserver et aux déclarations requises selon la situation. Le guide, par son format concis, ne vise pas à résoudre tous les cas de transmission, de contentieux ou de changement de structure. Il donne toutefois au lecteur un schéma de sortie utile, fondé sur le principe que la fermeture administrative ne doit pas être dissociée de la gestion commerciale et comptable. Cette dimension est particulièrement pertinente pour les personnes qui testent une activité ou exercent en complément de leur emploi. Elle rappelle aussi que la fermeture peut être une décision de gestion normale et non nécessairement le signe d'un échec. En intégrant la fin de parcours, l'ouvrage fournit une vision plus complète du cycle de vie administrative de la micro-entreprise. En conclusion, Top Actuel Micro-Entrepreneur 2025-2026 convient d'abord aux personnes qui découvrent le régime et recherchent une vue fiable, courte et structurée des questions à traiter avant et pendant une activité indépendante. Il peut aussi servir aux étudiants, aux salariés qui envisagent un projet complémentaire, ainsi qu'aux professionnels ayant besoin d'un rappel des mécanismes essentiels. Son bénéfice pratique ne tient pas à la promesse de résoudre chaque situation individuelle, mais à sa capacité de hiérarchiser les sujets cadre juridique, compatibilité avec une autre activité, surveillance du chiffre d'affaires, conduite des ventes et organisation de la cessation. Cette progression aide le lecteur à ne pas isoler les formalités de création des décisions de gestion qui les accompagnent. Par rapport à des guides plus volumineux, consacrés à la stratégie entrepreneuriale, au marketing ou à la comptabilité détaillée, ce titre se distingue par son format de 64 pages et ses 30 fiches synthétiques. Il privilégie la mémorisation et le repérage rapide des règles plutôt que le développement doctrinal. Son actualisation annuelle représente un avantage notable dans un domaine où les seuils et modalités doivent être vérifiés avec attention. Cette concision impose néanmoins une limite réaliste, les activités réglementées, les contrats complexes, les situations de cumul sensibles ou les choix fiscaux particuliers peuvent nécessiter des sources officielles et un accompagnement compétent. Dans son rôle propre, le livre constitue un outil de cadrage clair, conçu pour transformer un ensemble de règles dispersées en points de contrôle immédiatement exploitables. Si vous souhaitez soutenir Bénédicte Delporte, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.